Bon, si je regarde mes notes là sur la table du café, c'est juste une vraie soupe d'alphabet. J'ai des PV égale NRT, des sigma, des lambda dans tous les sens, et honnêtement, je suis un peu perdu. Ça a l'air massif.
Ouais, je comprends tout à fait, ça peut vraiment donner le vertige au début. Mais l'idée, pour ceux qui nous écoutent et qui partagent peut-être cette impression, ce n'est vraiment pas d'apprendre toutes ces équations par cœur. Pas du tout.
Ouf, ça me rassure déjà un peu parce que là, j'avais l'impression de lire des hiéroglyphes sans la pierre de Rosette.
En fait, il faut voir toutes ces formules mathématiques comme des simples lunettes. Des lunettes qui nous permettent d'observer l'invisible. Tout l'objectif de la chimie analytique, c'est de comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur de la matière.
Donc, le but de notre discussion aujourd'hui, notre mission en quelque sorte, pour quiconque veut comprendre comment on décode la matière, c'est de voir quelles lunettes on peut utiliser.
Exactement. On va explorer ensemble trois grandes méthodes pour faire, entre guillemets, parler les solutions et les gaz. On va se servir de la lumière, de l'électricité et même des mathématiques de l'espace.
Bon, par quoi on commence? La lumière, ça me paraît pas mal. Comment on fait pour faire réagir une molécule avec de la lumière?
Ben imagine que tu envoies un faisceau lumineux sur une molécule pour voir comment elle réagit. C'est le principe de la spectroscopie. Et on peut commencer par l'infrarouge.
Attends, l'infrarouge, par définition, on ne le voit pas à l'œil nu. On est bien d'accord.
Non, on ne le voit pas, mais la molécule, elle, le sent très bien. En chimie, une liaison entre deux atomes, ce n'est pas un bâton de bois tout rigide. Il faut plutôt l'imaginer comme un petit ressort microscopique.
Ah, comme un ressort. Ouais, donc si je lui donne de l'énergie, il se met à vibrer.
C'est tout à fait ça. Si tu lui envoies la bonne lumière infrarouge, le ressort absorbe cette énergie et se met à vibrer très fort. Et sur notre appareil, on lit ce qu'on appelle un spectre.
Et ça ressemble à quoi un spectre infrarouge? C'est juste une courbe sur un écran?
Oui, une courbe qui affiche la transmittance. En gros, c'est la quantité de lumière qui réussit à traverser l'échantillon, souvent notée avec un grand T. Plus cette transmittance est faible, plus ça veut dire que la lumière a été absorbée par la molécule.
Donc si très peu de lumière passe, c'est que la molécule en a avalé beaucoup. C'est super logique.
Voilà, c'est mathématiquement complémentaire. Si on appelle l'absorbance A, on a une relation du type A égale 100 moins T. Donc, un énorme pic vers le bas sur le graphe de transmittance, ça correspond à une forte absorption.
D'accord. Mais j'ai vu sur mes fameuses notes qu'on divise souvent ce graphique en deux parties, à la frontière de 1500 cm moins 1. C'est quoi d'ailleurs cette unité?
C'est le nombre d'ondes. C'est lié à la fréquence, mais ne te formalise pas trop là-dessus. L'important, c'est vraiment cette frontière. En dessous de 1500, c'est un peu le chaos. C'est ce qu'on appelle l'empreinte digitale de la molécule.
L'empreinte digitale, genre chaque molécule a la sienne, totalement unique.
Absolument. C'est un fouillis de petits pics très complexes, parce que dans cette zone, ce n'est pas juste un ressort isolé qui bouge, c'est toute la structure de la molécule qui se tord dans tous les sens en même temps.
Ah ouais, d'accord. Mais la zone au-dessus de cette frontière m'intrigue davantage. Celle qu'on appelle les groupes caractéristiques. Par exemple, la liaison C double liaison O. Ça fait un pic super fin, non?
Oui, une bande très étroite et très forte. Mais si on prend une liaison entre un oxygène et un hydrogène, le fameux groupe OH, dans un liquide, c'est très différent.
Ouais, le groupe OH. Qu'est-ce qu'il a de si spécial sur le graphique?
Bah, au lieu d'un pic fin, il donne une bande énorme, très large, comme une grosse cuvette.
Pourquoi une cuvette aussi géante pour un si petit groupe d'atomes? C'est bizarre.
C'est à cause des liaisons hydrogènes. En phase liquide, les molécules sont toutes entassées. L'atome d'hydrogène d'une molécule est fortement attiré par l'oxygène d'une molécule voisine.
Ah, je vois. C'est comme si un voisin attrapait l'extrémité de mon ressort et tirait dessus de façon complètement aléatoire.
Exactement. Ça déforme les ressorts, ça crée plein de petites vibrations avec des rigidités légèrement différentes. L'appareil capte toutes ces variations en même temps et ça étale le signal. Une simple courbe devient le témoignage du chaos des liquides.
C'est dingue de se dire qu'on peut voir les interactions d'un liquide juste avec de la chaleur infrarouge.
C'est très puissant. Mais ça, c'est pour l'invisible. Si on passe à la spectroscopie UV visible, on entre dans le monde de la couleur.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette histoire de couleur m'intrigue depuis un moment. Si je regarde une solution de sulfate de cuivre, elle est d'un bleu éclatant. Mais on m'a dit qu'elle absorbe le rouge. Que se passe-t-il physiquement pour qu'elle me paraisse bleue?
Il faut regarder au niveau quantique. La lumière blanche contient toutes les couleurs. Quand elle traverse ton liquide, la solution se comporte comme un péage. Elle avale littéralement les photons de lumière rouge, ceux qui ont l'énergie exacte pour faire sauter un électron.
Ok. Donc, la lumière qui ressort du liquide et qui arrive dans mon œil est amputée de ce fameux rouge.
C'est ça. Ensuite, l'œil humain et le cerveau font la synthèse. Et quand tu enlèves le rouge de la lumière blanche, ton cerveau perçoit la couleur diamétralement opposée sur le cercle chromatique.
La couleur complémentaire, du coup.
Voilà. Le cyan ou le bleu. C'est le principe fondamental de la spectroscopie UV visible. On voit la couleur complémentaire de ce qui a été absorbé.
D'accord. Donc, la couleur nous révèle la nature de la molécule. Mais pour mesurer la quantité, comment on s'y prend? On utilise la loi de Birlambert, c'est ça? Sans rentrer dans les maths, comment ça marche mécaniquement?
C'est une question de probabilité de collision, tout bêtement. Imagine le rayon de lumière comme une volée de flèches et les molécules comme des cibles. Plus la concentration est élevée, plus tu as de cibles et plus la probabilité qu'une flèche tape une cible augmente.
C'est super logique. L'absorbance est donc totalement proportionnelle à la concentration. Plus il y a de molécules, plus ça bloque la lumière, comme une belle ligne droite mathématique.
Oui, une belle ligne droite. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que la loi de Birlambert s'effondre systématiquement dès que la solution devient trop peuplée.
Attends, comment ça elle s'effondre si je concentre ma solution à l'extrême pour en faire un sirop très dense? La probabilité d'impact continue d'augmenter, non?
Non, justement. Au-delà d'un centième de mol par litre, en général, ça casse. D'abord parce qu'il y a un effet d'ombre, les molécules de devant cachent celles de derrière. Mais surtout, il y a un phénomène chimique.
Les molécules interagissent entre elles? Elles se rendent de l'an?
Ouais, elles sont trop proches, elles peuvent s'associer en paires, ce qu'on appelle des dimères. Et si elles s'associent, elles changent de forme.
Ah, et si elles changent de forme, leur niveau d'énergie change et elles n'absorbent plus exactement la même nuance de lumière?
C'est brillamment déduit. L'absorbance globale chute. La règle mathématique n'est qu'une illusion qui ne fonctionne que dans des conditions de grande solitude moléculaire, quand chaque molécule s'ignore.
C'est une belle leçon d'humilité pour nos équations, ça. Mais dis-moi, tout ça repose sur le fait que la molécule interagit avec la lumière. Comment on fait si la solution est parfaitement transparente, comme de l'eau salée? La lumière passe juste à travers.
Si la lumière est aveugle, on change de langage, on utilise l'électricité. L'eau salée est transparente, mais elle est pleine d'ions, des atomes chargés électriquement. On va mesurer sa capacité à laisser passer le courant. C'est la conductimétrie.
Ok, décortiquons tout ça. La conductimétrie. J'ai toujours trouvé ça délicat. On trempe deux plaques de métal dans l'eau, on envoie du courant et on mesure la conductance, l'inverse de la résistance.
Mais cette valeur dépend complètement de la taille de mes plaques, non? Totalement. C'est la mesure brute et ça dépend de la surface des électrodes et de l'écartement entre elles. C'est pour ça qu'il faut corriger cette conductance mathématiquement pour s'affranchir du matériel.
Et ça nous donne la conductivité, le fameux sigma.
Exactement. La conductivité, c'est une grandeur universelle, propre à la solution elle-même. C'est la signature de l'agilité des ions dans ce liquide.
Et cette agilité varie selon les ions. On utilise la loi de Kohlrausch pour ça, c'est bien ça?
Oui, la loi de Kohlrausch dit que la conductivité totale, c'est juste l'addition des contributions de chaque ion. C'est comme une autoroute. Chaque type d'ion a sa propre vitesse de croisière, sa mobilité.
Ah, j'imagine qu'un petit ion très léger comme le lithium se déplace beaucoup plus vite qu'un gros ion massif comme le potassium, non?
On pourrait penser ça, mais dans l'eau, c'est l'inverse.
Attends, sérieusement, le plus petit est le plus lent.
Ouais, l'eau n'est pas vide. L'ion lithium est tout petit. Donc sa charge électrique est ultra concentrée, il agit comme un aimant très puissant et attire autour de lui une énorme carapace de molécules d'eau, sa sphère de solvatation.
Je vois. Donc quand le champ électrique tire dessus, le pauvre petit lithium doit traîner avec lui un boulet d'eau géant.
C'est ça la réalité physique. La friction fluide dicte les règles. Et c'est ce qui donne à chaque ion son petit lambda, sa conductivité propre.
Mais j'ai retenu la leçon avec la lumière. Si on a des ions sur une autoroute liquide, si j'augmente la concentration de sel à fond, cette belle addition de Kohlrausch doit s'effondrer elle aussi.
Sans aucune exception. Si l'autoroute est trop chargée, le mécanisme s'effondre à cause de l'atmosphère ionique. Dans une solution concentrée, chaque ion positif est entouré d'un nuage de petits ions négatifs.
Une sorte de cocon de charges opposées, en fait.
Voilà. Quand l'ion essaye d'avancer, il se décentre de son nuage. Et le nuage, comme un élastique, va le tirer vers l'arrière et le freiner considérablement. La mobilité s'effondre totalement.
C'est dingue. Dès que la matière devient trop dense, les interactions détruisent nos lois linéaires.
Si on relie ça à une vision plus globale, Pour trouver des équations parfaites, il faudrait un milieu où les molécules sont tellement éloignées qu'elles ne se gênent jamais.
Ce qui nous amène directement au gaz. C'est là qu'on trouve la pureté mathématique.
Que ce sont de simples points géométriques et qu'elles n'interagissent jamais entre elles.
Mais c'est une construction mentale absurde, non ? On parle de matière réelle, ça ne peut pas ne pas avoir de volume.
Ça paraît absurde pour un liquide, mais regarde un gaz, dans les conditions normales. Une mole de n'importe quel gaz va occuper environ 22,4 litres. Sais-tu quel est le volume réel des molécules par rapport à cet espace ?
Je me doute que c'est petit, mais c'est minime à quel point ?
C'est de l'ordre d'un dixième de pourcent. 99,9% de cet espace, c'est du vide absolu. Les molécules sont tellement espacées qu'on peut ignorer leur taille.
Ah ouais ? C'est le triomphe du vide, en fait. C'est pour ça que la fameuse équation PV égale NRT marche si bien.
Exactement. Mais que se passe-t-il si tu décides de compresser ce gaz drastiquement avec un piston ?
Ben, je réduis le vide, donc le volume des molécules n'est plus du tout négligeable.
Et en plus, en les forçant à se rapprocher, tu actives les petites attractions intermoléculaires, le comportement dévie violemment du modèle idéal. Si tu pousses encore, le gaz se liquéfie et retombe dans le monde du chaos.
Donc, qu'est-ce que tout ça veut dire ? On a des lois magnifiques pour la lumière, l'électricité, les gaz, mais elles sont toutes limitées par la densité. Concrètement, pour le citoyen moyen, à quoi ça sert d'avoir conçu tout ça ?
Ça sert d'ancrage pour le contrôle qualité dans le monde réel. Prends une bouteille de vinaigre ménager. Sur l'étiquette, on lit souvent « vinaigre à 8% en masse ».
Oui, le titre massique, 8 g d'acide pour 100 g de liquide.
Sauf que nos sondes, le spectrophotomètre ou le conductimètre, elles ne lisent pas des grammes, elles comptent des cibles. Elles ont besoin d'une concentration molaire, de mol par litre.
Et comment on fait le lien entre les deux ?
On utilise la masse volumique, la densité du liquide. C'est ce paramètre qui permet de passer du monde des grammes au monde des litres. On traduit ce pourcentage massique en une concentration attendue.
D'accord. Mais si c'est du vinaigre pur, c'est super concentré, on va être complètement hors de la zone de confort de nos belles équations, non ?
Tu as mis le doigt dessus. C'est pour ça qu'en laboratoire, on procède toujours à des dilutions. On ajoute de l'eau pure pour diminuer drastiquement la concentration de l'échantillon.
Ah. On recrée artificiellement le vide autour des molécules, on dilue pour espacer les cibles, détruire les dimères, dissiper les nuages ioniques. Et hop, on retrouve la perfection linéaire de nos lois.
C'est exactement ça, l'essence du travail en labo. On apprivoise l'échantillon, on le dilue, la machine nous donne une valeur pure, et ensuite on fait le calcul à l'envers avec le facteur de dilution.
Pour retomber sur la concentration de la bouteille et vérifier si le contrôle qualité est bon, c'est une sacrée chorégraphie, hein. En fin de compte, on passe notre temps à fuir les foules moléculaires. Il faut que la matière chuchote dans le silence pour qu'on puisse la lire.
C'est un résumé parfait. L'art de l'analyse, c'est l'art d'isoler.